Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio Itémé, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio Itémé, c'est le pouvoir de la parole.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio Itémé. Nous sommes samedi le 12 février 2022. Nous revenons dans une autre émission en français, une émission qui va toucher la question des réfugiés rwandais. On va essayer de faire un petit tour historique sur cette question. Et on va essayer d'exposer un peu les difficultés rencontrées par les réfugiés, rencontrées par la communauté rwandaise en général par rapport à cette question qui existe depuis longtemps. Et donc, pour ce faire, nous avons deux invités aujourd'hui, des invités que je remercie en avance de leur disponibilité, de leur temps. Et donc, je vais commencer par la première qui s'appelle Delphine Danissa. Je ne sais pas si tu me reçois 5 sur 5. Si tu me reçois, je te donnerai 2000. Bonjour Delphine, et tu es la bienvenue sur la radio Itémé. Donc, je vais te donner 1 ou 2 minutes pour te présenter. Parle-nous un peu de nous, de toi, je vais dire, et de l'organisation, de l'organisme que tu représentes.
Bonjour Achille, je te remercie donc de cette invitation. Je suis là en tant que membre de la plateforme SOS Réfugiés. Je pense que vous avez dû en entendre parler ces dernières semaines parce que nous étions en pleine campagne de collecte de fonds. Donc je représente cette plateforme-là et je suis dans cette plateforme en tant que membre de l'association Système VZWE. Parce qu'il faut savoir que la plateforme SOS Réfugiés est un ensemble, un collectif de 7 associations de la communauté civile rwandaise au fait de Belgique. Et donc, il y a 7 associations avec des objectifs divers au départ, mais qui ont décidé de se mettre ensemble pour essayer donc de venir en aide, de créer une solidarité entre la communauté rwandaise et les réfugiés rwandais qui sont à travers le monde et plus spécialement ceux qui sont en République démocratique du Congo. Voilà.
D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour cette belle présentation et bravo pour vos initiatives. Sans plus tarder, je vais demander à mon collègue aussi Anissé Karegué de prendre la parole, de saluer les auditrices et les auditeurs de la radio Itémé et en quelque sorte aussi de se présenter s'il le souhaite. Anissé Karegué, la parole est à toi.
Merci beaucoup, Achille. Je te remercie d'avoir eu l'initiative de cette émission qui va aborder le problème crucial des réfugiés rwandais, l'un des problèmes épineux que connaît le Rwanda actuellement. Je te salue donc, je te remercie et je salue également ma sœur Delphine Danissa et je la félicite aussi avec ses collègues pour les actes qu'elle pose ou qu'il y pose à l'endroit du problème en question, le problème des réfugiés rwandais, et parce que c'est pas évident de trouver des solutions durables à ce phénomène qui dure depuis longtemps. Je veux également saluer tous nos auditeurs et tous ceux qui pourront nous suivre après, et j'espère bien que l'émission va bien se dérouler. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anissé Kalayé. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Je pense que je ne me suis pas présenté. Hein. Donc, moi, je suis Achille Kamana, animateur sur la radio Itémé. Et donc, on va faire cette émission en deux parties. La première partie, c'est ça, durant la première partie, on va parler de la situation actuelle des réfugiés. On va faire un petit tour de l'historique de cette problématique. Et durant la deuxième partie, on va voir, en quelque sorte, les initiatives qui sont mises en place pour aider ces réfugiés. Donc, je vais commencer par Anissé Kalayé, en lui demandant de nous dresser un portrait global de la situation des réfugiés rwandais, c'est-à-dire que on va un peu toucher les causes. Pourquoi il y a encore des réfugiés rwandais? Quel est le rôle que joue le gouvernement du Rwanda? Les institutions internationales. On va aussi contextualiser par rapport à l'histoire du Rwanda. L'OFR qui a pris le pouvoir en juillet 1994 avait un manifeste dans lequel il stipulait que ils allaient lutter contre toutes les formes, toutes les causes qui font qu'il y ait des réfugiés. On va parler un peu aussi des conditions de vie des gens. De ces réfugiés, ils sont où, ils vivent dans quelles conditions, quels sont les défis qu'ils rencontrent. Et donc, je vais commencer par Anissé Kalayé et après Delphine Santo à l'aise de compléter. Anissé Kalayé, la parole est à toi.
Merci encore une fois, Achille. Je ne sais pas si j'ai pas omis de me présenter comme tu me l'avais demandé avant. Et donc, je suis Anissé Kalayé, pas Kalayé comme tu le dis, Kalayé. Je suis l'un des dirigeants de l'Alliance rwandaise pour le changement et je préside le comité gouvernance et réforme institutionnelle qui englobe également le problème des réfugiés. Voilà, excuse-moi, j'avais oublié au début. Et donc, pour comprendre le problème des réfugiés rwandais, pour comprendre ce problème-là, il faut remonter dans les années 1950-1960, quand il y a eu un changement de régime politique au Rwanda. Vous savez, jusque-là, nous avions un régime monarchique, qui, disons, comme toutes les monarchies, hein, c'était un régime, une dynastie qui était là, qui se passait au pouvoir de père en fils, comme cela, même si en dernier lieu, c'est plutôt de frère en frère, parce que l'avant-dernier roi du Rwanda n'avait pas d'héritier direct. Voilà. Et donc, quand il y a eu le changement de régime politique au Rwanda, ça a été brutal, hein? Il n'y a pas eu de transition. On est passé directement de la monarchie à la République. Et ce mouvement-là, cette brutalité a fait qu'il y ait des gens qui partent à l'extérieur du pays, soit parce qu'ils étaient menacés, parce qu'il y avait beaucoup de violence à l'époque, soit parce qu'ils ne se sentaient pas en capacité d'être gouvernés d'une monarchie. Donc, c'est ça le nœud du problème. Et donc, ces gens-là, et ils étaient très nombreux, sont partis à l'extérieur du pays. Ils se sont établis dans les pays limitrophes, notamment en Ouganda, au Congo, la République démocratique du Congo actuellement, au Burundi, en Tanzanie, mais il y en a qui ont pu également aller un peu plus loin, comme au Kenya et ailleurs. Et donc, ces gens-là sont partis, et il y en a qui ne sont jamais revenus chez eux. Ce que je veux dire ici, peut-être qui a aggravé ce problème-là. Parce que vous savez, quand il y a un changement de régime, quand il y a des catastrophes, conflits armés, il y a toujours des gens qui quittent leur pays. Mais à la fin du conflit, à la fin de la catastrophe, à la fin du problème qu'ils ont fui, ils reviennent chez eux. Ce n'est pas le cas du Rwanda. Et c'est pour cela que nous disons que, dès la Première République, il y a eu un échec constant, un échec de résoudre ce problème-là. Parce que le pouvoir qui a succédé à la monarchie, le premier pouvoir républicain, n'a pas su résoudre le problème des réfugiés rwandais. Il y a eu des appels au retour des réfugiés, mais si ces gens-là n'ont pas voulu revenir, c'est qu'il y avait un problème. C'était la Première République. La Deuxième République, c'est pareil. Il n'y a pas eu de réponse positive aux sollicitations des réfugiés pour qu'il y ait un début de solution. Et la réponse des réfugiés a été militaire. Malheureusement, 90, le 1er octobre 90, on a eu un mouvement des réfugiés, on a eu une attaque militaire. Et le problème premier qui a fait que ces militaires qui étaient établis à l'extérieur du pays rentrent de force au Rwanda, c'était justement parce qu'ils voulaient, selon eux, résoudre ce problème des réfugiés. Ils sont venus militairement. Je ne veux pas reprendre toute l'histoire, mais ils ont par gagné la guerre en 1994. Et donc, une partie du problème était résolue, parce que ces gens avaient renversé le pouvoir, qui avait renversé la monarchie, dont ils se sentaient proches. Et donc, ils sont venus. Et parmi les objectifs qu'il mettait en avant, parce qu'il y avait un programme politique, bien évidemment, il y avait en septième lieu, sur 9 points qu'il claironnait, il mettait en avant, il inventait un peu partout dans le monde, évidemment aussi auprès de l'opinion rwandaise, c'est qu'il voulait résoudre à tout jamais le problème des réfugiés. Ils sont venus, ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont même actuellement. Et puis, ceux qui ont voulu, les anciens réfugiés, on va dire, qui étaient partis dans les années 60, au moment du renversement de la monarchie, ceux qui ont voulu, ou ceux qui ont pu, sont rentrés. Il y en a qui sont restés, parce que tout le monde ne se sentait pas proche de son nouveau pouvoir, même s'il est milité. Le pouvoir en question militait en faveur des anciens réfugiés. Mais en prenant le pouvoir au Rwanda, il y a eu d'autres mouvements. Lorsque les gens qui étaient maintenant à l'intérieur du pays, lorsqu'ils ont vu l'avancée militaire du FPR, la plupart des gens sont sortis du pays. Vous savez, tout le monde l'a suivi, je pense. Il y en a qui faisaient partie aussi de ce mouvement-là, quand de réfugiés à l'est du Congo, en Tanzanie, et puis au nord du Burundi, le problème des réfugiés rwandais.
Anissé, ce sera une petite parenthèse, juste pour te compléter, il y a eu aussi des camps de réfugiés à l'intérieur du Rwanda avant que les FPR ne prennent le pouvoir, notamment le camp de réfugiés de Nyakionga et même
Nyakionga, oui.
Voilà, et même à Kibeho. C'est juste pour te compléter, tu peux continuer.
Oui, exactement, oui. Voilà. On parlait plutôt des déplacés de guerre. On ne parlait pas de réfugiés, mais ça fait partie du problème aussi. Les gens qui ont fui leur bien, leur région natale pour s'établir ailleurs, même si c'était à l'intérieur du Rwanda, mais évidemment, ils connaissaient aussi les problèmes que connaissent les réfugiés qui sont à l'extérieur du pays. Voilà. Et donc, je parlais de ces réfugiés qui ont quitté le pays en 1994 avec la prise du pouvoir des FPR. Ils se sont établis à l'extérieur du pays. Quand le FPR est arrivé au pouvoir, de son programme politique, le FPR a commencé à appeler les gens à rentrer. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les réfugiés ne rentrent pas parce qu'on les appelle. Les réfugiés rentrent parce qu'ils sentent que ce qu'ils ont fui n'est plus. Ils rentrent parce que les conditions sont remplies à l'intérieur du pays pour qu'ils puissent jouir de tous leurs droits. Et donc, si maintenant, près de 30 ans après, parce que maintenant on compte 28 ans après la prise du pouvoir du FPR, si les gens ne veulent pas rentrer maintenant, c'est qu'ils sentent que les conditions de retour ne sont pas remplies. Même si dans les discours officiels du pouvoir de Kigali, ils appellent les gens à revenir dans leur pays, mais si les gens ne rentrent pas, c'est que justement les conditions ne sont pas encore remplies. Donc c'est ça que je voulais dire. En peu de mots, j'ai essayé de retracer l'historique des réfugiés rwandais depuis les années 1950 et 1960, et puis l'autre mouvement qui a eu lieu en 1994. Ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, il existe des milliers et des milliers de réfugiés à l'extérieur du Rwanda. Vous en connaissez qui sont un peu loin, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, dans d'autres pays du monde, mais le gros des réfugiés se trouve dans les pays de la sous-région du Rwanda. Je vais notamment parler de l'Ouganda. Vous connaissez tous, je pense, le fameux camp des réfugiés de Nakivale. Il y en a au Congo Kinshasa, même s'il y a des problèmes d'insécurité, mais les gens sont encore là. Il y a des réfugiés rwandais en Zambie, au Malawi, au Zimbabwe, au Mozambique. Un peu partout en Afrique, il y a des réfugiés rwandais qui ne rentrent pas encore une fois, je le répète, parce que les conditions ne sont pas encore remplies pour le retour des réfugiés rwandais. Vous l'aurez compris, je vais dire que le problème des réfugiés est lié à la problématique politique à l'intérieur du pays. C'est un problème politique. Le pouvoir rwandais le voulait actuellement. Si le pouvoir rwandais écoutait ceux qui essaient de le conseiller, si le pouvoir rwandais le voulait maintenant, tous les réfugiés rentreraient demain. Mais il ne s'agit pas de discours, il s'agit de poser des actes concrets pour que les gens voient qu'à l'intérieur du pays, la sécurité est totale, les libertés sont garanties et que tout le monde peut vivre dignement. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, je vais essayer de faire bref, Achille. Le problème des réfugiés rwandais, comprendre, il faut remonter dans les années 1950-1960. Il faut aussi revoir ce qui s'est passé en 1994. Mais il faut comprendre surtout que si le problème n'est pas résolu actuellement, c'est que le pouvoir n'est pas en mesure de résoudre les problèmes qui sont posés et qui sont dénoncés par les organisations internationales, l'opposition rwandaise, la société civile, par exemple, qui représente Madame Danessa. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu globalement à ta question. Peut-être que je n'ai pas abordé les sous-questions. Il y en avait un certain nombre. Mais si tu m'interroges, je pourrais peut-être mieux m'y répondre. Merci beaucoup.
Bien sûr. Merci beaucoup, Anissé, pour cet exposé historique qui est, à mon avis, complet. Je vais demander à Delphine de parler plus ou moins de du rôle, parce qu'on parle des conditions qui ne sont pas remplies. Quelles sont ces conditions qui ne sont pas remplies? Pourquoi les gens ne rentrent pas de façon concrète? Et pourquoi le gouvernement rwandais tient des discours contradictoires? Et de là, qu'est-ce que je veux dire? Le gouvernement rwandais a pris certaines initiatives aux yeux de la communauté internationale pour soi-disant ramener la majorité ou tous les réfugiés rwandais à l'intérieur du pays. Pourquoi ces réfugiés ne sont pas rentrés? Ceux qui sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont observé? Pourquoi ils n'ont pas été en mesure de rassurer les autres qui sont restés à l'extérieur? Et quelles ont été les initiatives du gouvernement rwandais pour justement ramener ces gens à l'intérieur du pays? Et quel a été le rôle de la communauté internationale, notamment les institutions ou les instances internationales qui sont chargées de la protection des réfugiés? Delphine, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Et s'il le faut, Anissé, tu pourras la compléter. Delphine, la parole est à toi.
Merci, Achille. Oh, il n'y a pas qu'une seule question, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs.
Exactement.
Mais c'est vrai que pour... Je pense qu'on va les faire une à une parce que sinon je vais tout mélanger. Pour revenir très rapidement à pourquoi il y a des réfugiés rwandais, j'ajouterai au fait à ce que vient de dire Anissette qu'il faut quand même reconnaître que depuis la traite du FPR au 1er octobre 1990, les Rwandais, donc ça a commencé au nord du Rwanda, donc dans la préfecture de Byumba, on sait très bien que les Rwandais ont fui devant l'avancée du FPR. À chaque fois que le FPR avançait, on les appelait à l'époque des déplacés de guerre parce qu'ils étaient encore à l'intérieur du Rwanda. Il y avait toujours des gens qui fuyaient. Mais ces personnes fuyaient quoi? Ils fuyaient les exactions du FPR. C'est-à-dire que le FPR avançait en tuant la population. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même dire et redire parce que c'est la vérité. Ça s'est passé au Rwanda de 90 à 94. Ça s'est passé dans les forêts du Congo de 96 jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment le FPR, mais on voit très bien que il y a quand même pas mal de groupes armés dans l'est du Congo qui sont quand même soutenus par le Rwanda. Donc ça, c'est une réalité qui existe depuis 32 ans. Ça explique aussi pourquoi les gens ont fui, pourquoi la population rwandaise a fui en 94 en masse. Il y a eu quand même plus de 4 millions de réfugiés qui sont arrivés dans l'est du Congo. Ça explique également pourquoi en 96, quand le FPR a insisté pour que ces personnes-là rentrent, parce que de 94 à 96, les camps de réfugiés, donc dans l'est du Congo, étaient remplis de réfugiés rwandais. Mais personne ne rentrait. Pourtant, ça faisait 2 ans que l'FPR était au pouvoir. Logiquement, quelqu'un qui a juste fui les bombardements, qui a juste fui les guerres, a le temps de décider de retourner dans son pays. Mais ça ne s'était pas passé. Donc l'FPR a décidé de les ramener au Rwanda par force. Ça, c'est quelque chose qui explique. Qui explique pourquoi il y a toujours des réfugiés. Parce que quand un pays décide de rapatrier, dans ce cas-là, c'est pas comme ça qu'on va l'appeler, de forcer sa population à rentrer, c'est que la population ne lui fait pas confiance. Donc aujourd'hui, les réfugiés qui sont les réfugiés rwandais, il y en a à peu près 450 000 aujourd'hui à l'extérieur du Rwanda, ne font toujours pas confiance à l'État rwandais. L'État rwandais, c'est quoi? L'État rwandais, c'est le FPR. Donc, ça explique pourquoi il y a des réfugiés. Maintenant, à un moment donné, vous m'avez demandé où vivent-ils, comment vivent-ils ces réfugiés, c'est ça?
Achille? Oui, effectivement. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie de mentionner ou d'expliquer à nos auditeurs, auditrices, les initiatives que le gouvernement rwandais a mises en place pour rapatrier les réfugiés et comment ces initiatives sont contradictoires avec son attitude. Quelles ont été les personnes qui ont joué le rôle là-dedans? Donc, c'est ça.
Première initiative, bombarder les camps de réfugiés dans l'est du Congo pour forcer les gens à rentrer. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose qui te motive, qui te motive à rentrer, qui te rassure? Quand tu es réfugié, je ne pense pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées, mais ces personnes sont rentrées malgré eux. Après, ceux qui sont restés à l'extérieur, qui ont pu fuir, les Rwandais appellent ça donc à travers Inzilandende, donc le long cheminement des Rwandais à travers les forêts du Congo, qui sont arrivés à gauche à droite, donc se sont installés dans les pays limitrophes. Et qu'est-ce que le gouvernement rwandais a fait? Au fait, l'État rwandais s'est juste rapproché du HCR. en disant voilà, en essayant en fait de les convaincre que tout va bien au Rwanda et donc
Delphine,
de mettre en place.
Delphine, le HCR, pour que les gens comprennent, je pense que la majorité savent quoi, mais le HCR qui est le Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est ça?
Oui, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, l'État rwandais, dès les années 2009, a commencé à se rapprocher donc, du Haut Commissariat des Nations Unies pour demander à ce qu'on invoque la clause de cessation. C'est quoi la clause de cessation? En fait, c'est une clause qui indique, en fait, que, en fait, qui indique en fait qu'il y a plus de statut de réfugié, qui arrête le statut de réfugié pour une catégorie de réfugiés en fait. Et là donc l'État rwandais demandait à HCR donc d'invoquer cette clause de cessation parce que d'après le gouvernement rwandais en fait ces Rwandais qui étaient réfugiés à l'extérieur n'avaient plus raison d'être réfugiés, tout se passait bien au pays, il y avait une démocratie, il y avait des élections, il n'y avait pas d'insécurité, donc il n'y avait vraiment pas de raison qu'ils restent à l'extérieur. Donc ça, c'est ce que l'État rwandais a fait. L'OHCR a plutôt écouté ce discours. Et donc, dès 2011, en fait, on a commencé à mettre en place.
Delphine, intervenir un tout petit peu. Delphine, merci. Mm-hmm. Je vais intervenir un tout petit peu pour que les gens comprennent comment le Rwanda a manipulé la communauté internationale, notamment l'OHCR. Pour y arriver, je pense qu'ils ont utilisé une ministre qui était elle-même ancienne réfugiée dans les camps de réfugiés, je pense, du Congo ou du Congo-Brazzaville. Je ne me souviens pas, est-ce que...
Non, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, disons que, comment dire ça, il ne faut pas oublier que dans la fin des années 2000, en fait, dans 2009, 2010, 2011, même à partir de 2005, il y a eu ce qu'on appelle une croissance économique en Afrique qui était très importante. Il y a eu des croissances économiques avec des chiffres autour de 10%. Et le Rwanda faisait partie de ces pays-là, donc il y avait une croissance économique assez importante. Et le Rwanda a été vu comme un modèle de, comment dire, de pas de démocratie, mais de bonne gouvernance. Le Rwanda était le pays qui avait le plus de députés femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça sont des éléments que le Rwanda mettait en avant en disant, voilà, nous, on est un pays qui fonctionne très bien et donc, on a une croissance économique, on a une belle gouvernance. Vous voyez, tout ça montre que tout va bien et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des réfugiés. Et le Rwanda aussi s'est rapproché de certaines personnes. Et en effet, à l'époque, ils ont réussi à convaincre une personne qui était réfugiée, qui est une Rwandaise qui était réfugiée au Congo-Brazzaville, ils lui ont proposé un poste. Elle a eu le poste, elle était chargée de s'occuper du problème des réfugiés. Donc, ce qui faisait que quand il y avait une délégation rwandaise qui allait dans les négociations dans les pays africains, c'est elle qui était en tête et qui expliquait à gauche à droite, en effet, voilà, moi j'étais réfugiée, j'ai décidé de rentrer au pays et aujourd'hui j'ai un poste de ministre. Donc, ça veut dire que tout est possible, il n'y a plus de raison de craindre le Rwanda. Et c'est vrai qu'avec une porte-parole comme ça, on ne peut que convaincre. Donc, mais ceci dit, je ne pense pas que c'était juste vraiment le porte-drapeau. Tout s'est joué au HCR, parce que c'est quand même le HCR qui invoque la clause de cessation. C'est elle qui pousse les pays à le faire. Et ça, il ne faut pas oublier aussi que ça s'est fait juste dans les pays africains. En Europe, il n'y a pas ce problème-là. Tout simplement parce que les pays européens ont ce qu'ils appellent un droit d'asile. Donc, les problèmes d'asile, donc de réfugiés, sont étudiés au cas par cas, tout de suite. Alors que dans les pays africains, en tout cas, les pays dans lesquels on a travaillé sur la clause de cessation n'avaient pas de droit d'asile, en fait. Donc, tous les réfugiés étaient gérés par l'OHCR. Donc, c'est l'OHCR qui décide.
Je peux compléter, si vous permettez.
Mm-hmm.
Pour cet élément, c'est justement apporter une petite précision à cet élément que vous apportez de clause de cessation. Parce que la clause de cessation, normalement, qui est prévue dans le statut de réfugié, est invoquée lorsque les circonstances qui ont été à la base des raisons impérieuses découlant d'une persécution antérieure. Voilà. Donc, les circonstances qui ont cessé d'exister, ça veut dire que ce statut de réfugié, normalement, doit être révoqué. Et c'est justement tout derrière fait. Cette clause de ce sens que s'est réfugié le gouvernement rwandais avec la complicité du HCR, comme vous le disiez pertinemment. Et voilà, ils ont dit que les gens qui ont quitté le pays à partir de 1959, donc la date de départ des problèmes des réfugiés rwandais, 1959, jusqu'à 1998, ils ont estimé que ces gens-là, voilà, c'est de 1959 à 1998, ils ont estimé que ces gens-là n'avaient plus le droit d'avoir le statut de réfugié. Et c'est pour ces gens qui ont fui le pays entre ces deux dates, que le problème, que la clause de cessation est évoquée. Mais le problème, c'est que pour vous compléter la clause de cessation, c'est que même depuis 1998, à partir, disons, de 1999, c'est que le nombre de réfugiés à l'extérieur du pays n'a cessé de croître. Donc, ça n'a rien résolu. Ils ont, évidemment, même les gens qui ont fui le pays avant 98, ils ne sont pas rentrés. Mais même s'ils étaient rentrés, ça n'aurait rien résolu parce que le problème fondamental qui reste, c'est justement que les conditions ne sont pas encore remplies pour le retour des réfugiés rwandais. Je m'excuse de vous avoir interrompu, mais c'était pour apporter cette petite précision.
Non, vous avez raison, Alice. En effet, la clause de cessation, elle est vraiment invoquée en disant les raisons qui vous ont fait fuir n'existent plus, donc vous n'avez plus à être réfugié. Si je dis un peu de mots, c'est exactement ça. Et c'est ce que le HCR a expliqué aux réfugiés rwandais en disant voilà, il n'y a plus de raison d'être. Le Rwanda est un pays qui se porte très bien, économiquement, socialement, donc rentrez chez vous.
Parfait. Je pense qu'on a fait le tour plus ou moins. C'est une longue histoire, comme vous l'avez mentionné. Les causes sont vraiment multiples, mais si on fait un petit résumé, les causes sont politiques. C'est-à-dire que l'espace politique est fermé, les gens n'ont pas le droit d'exercer leur citoyenneté, les droits et libertés ne sont pas garantis au Rwanda, toutes les questions entourant les droits de l'homme ne sont pas respectées, l'économie va très mal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inégalités, donc on a beaucoup de Rwandais qui sont très pauvres et peu de Rwandais qui sont très riches. Et donc, il y a toutes les questions qui tournent autour de la sécurité ou de l'insécurité. Et tout ça fait en sorte qu'il y a encore des réfugiés. Il y a des gens en ce moment qui veulent fuir le Rwanda. Il y a des gens qui ont été assassinés sur les frontières du Rwanda, notamment la frontière de l'Ouganda, parce qu'ils essayaient de traverser la frontière en fuyant le Rwanda. Et donc cette question, cette problématique de réfugiés est toujours d'actualité et le gouvernement n'a rien fait pour la résoudre, malgré le fait qu'ils ont pu manipuler justement certaines institutions internationales. Et donc, on va passer à la deuxième partie de notre émission pour essayer de respecter le temps. Il nous reste à peu près, on va dire, 10 minutes. Malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces difficultés, malgré ce drame qui passe sous silence, malgré cet échec du FPR, les Rwandais qui ont la volonté et qui ont la capacité de le faire, ont gardé un cœur ouvert, un grand cœur pour ne pas oublier leurs compatriotes. Et donc, il y a eu des initiatives, plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour aider ces réfugiés en attendant que le gouvernement rwandais se charge de la question ou en attendant que, tout simplement, la communauté internationale se penche sur la question de façon très sérieuse. Et donc, sur ces initiatives, il y a l'initiative SOS Réfugiés, qui est un collectif de plusieurs organisations que Delphine a présenté tout à l'heure. Alors, je vais redonner la parole à Delphine pour qu'elle nous explique un peu SOS Réfugiés, c'est quoi? Ils aident quels réfugiés? Est-ce qu'il y a des critères? Leurs activités se déroulent exactement où, si c'est possible? Et quels sont les défis que vous rencontrez? Il y a sûrement des défis financiers, il y a sûrement des défis politiques, mais on aimerait vous écouter pour que les gens qui nous écoutent sachent en premier lieu qu'il y a un grand problème et qu'ils sachent qu'ils peuvent aussi contribuer pour résoudre en partie ce problème. Delphine, la parole est à toi.
Donc, comme je vous disais donc en début d'émission, je suis membre donc de la plateforme SOS Réfugiés via notre association qui s'appelle Système VZOE. SOS Réfugiés étant donc une plateforme, il y a plusieurs associations dedans. Il y a une association, donc il y a le Système VZOE qui est une association à but purement humanitaire. Il y a Les Petites Mains qui est une association humanitaire aussi qui travaille donc dans les camps de Kintélé. Donc Kintélé, c'est au Congo-Brazzaville. Il y a l'association donc Jambo qui est une association qui est connue dans le milieu donc rwandais et qui agit surtout qui communique beaucoup sur la situation et qui sensibilise la situation des réfugiés. Il y a une association qui s'appelle Inyangé, c'est une association qui travaille beaucoup avec les jeunes. Ils ont un ballet aussi de danse traditionnelle rwandaise et ils donnent des cours de Kinyarwanda, donc c'est vraiment une association culturelle, ainsi que Kolorabel, qui est une association culturelle aussi. Ces associations-là se sont mises ensemble parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné, donc c'était en 2014, qu'on travaillait tous sur la problématique des réfugiés rwandais, que ce soit en Belgique ou ailleurs pour les associations à but humanitaire. Et on a décidé donc de travailler ensemble pour être plus forts et surtout pour pouvoir répondre aux problèmes des réfugiés rwandais en RDC. Pourquoi en RDC ? Parce que en 2014, c'est là où il y a eu une reconnaissance des conflits armés en République démocratique du Congo, où les réfugiés rwandais qui commençaient à s'installer dans les villages à gauche à droite se sont retrouvés encore face à l'armée du FPR ou à l'armée rwandaise. C'est plus le FPR, c'est l'armée rwandaise. Et ils se sont retrouvés donc repartis sur les routes, dans les forêts, et c'était vraiment très problématique. Et à ce moment-là, on s'est mis tous ensemble, on a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que tous les ans, tout le temps, on essaie de récolter des fonds pour apporter notre aide à ces personnes-là. Achat de médicaments, achat de financement de matériel scolaire. Des fois aussi, on intervient parce qu'il faut acheter des vivres. Quand il y a des réfugiés qui se déplacent suite à un conflit et qui perdent tout, qui doivent tout recommencer, pendant un certain temps, on est obligé de leur venir en aide en leur procurant donc des vivres. Donc, on travaille très beaucoup sur les réfugiés donc en République démocratique du Congo, mais on travaille aussi sur des cas qui se présentent ponctuellement à gauche à droite. L'année dernière, on est intervenu au Malawi, parce qu'au Malawi, il y a eu un problème. Le ministre de l'Intérieur malawite avait décidé que les réfugiés devaient retourner dans les camps. Et à ce moment-là, donc, sachant qu'il y a pas mal de réfugiés rwandais qui sont dans les villes au Malawi, qui sont installés, des enfants qui vont à l'école, des commerçants qui font leurs affaires, des gens qui travaillent. Donc, on s'est mobilisé pour alerter l'opinion publique sur ce qui se passait. Parce qu'en fait, c'était une décision arbitraire. Et on a réussi, notre action a réussi quand même à bloquer la décision du ministre de l'Intérieur par la justice malawite. Et aujourd'hui, donc, c'est pas encore terminé, il y a un statu quo, mais SOS Réfugiés donc est intervenu par rapport à ça. Actuellement, on a une section qui travaille aussi sur le cas donc au Niger, les 8 Rwandais qui sont en cours d'expulsion, donc qui venaient donc qui ont été les anciens du TPIR en fait, et qui se sont retrouvés au Niger en fin d'année avec une demande de quitter le territoire. Donc, c'est-à-dire qu'on intervient partout pour les réfugiés rwandais, mais c'est vrai qu'on est surtout sur la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 400 000 réfugiés rwandais en République démocratique du Congo aujourd'hui. Pour revenir, donc, le défi, c'est de trouver les moyens, mais les moyens, ce sont les moyens financiers, bien sûr, donc d'où le fundraising qu'on fait tous les ans en fin d'année, mais il nous faut aussi des moyens humains. On est toujours à la recherche donc de personnes qui pourraient nous aider, des juristes, des journalistes, En fait, je pense que toute personne est la bienvenue parce que le travail à battre est énorme. Et nous avons, parce que nous travaillons aussi à la sensibilisation, on intervient tous les ans lors de la Journée internationale du réfugié pour sensibiliser en fait la communauté internationale, pour sensibiliser les Rwandais, la communauté rwandaise, pour sensibiliser les Rwandais qui sont au Rwanda, parce que le problème des réfugiés rwandais en fait concerne tout le monde. Que j'ai répondu à ta question, Achille.
Merci beaucoup. Est-ce que les gens qui veulent communiquer avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez un groupe Facebook? Est-ce qu'il y a des coordonnées? Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre?
Oui. Donc, pour me soutenir, vous pouvez faire un don, des dons. On encourage même les gens à faire un don mensuel. Par exemple, vous décidez de mettre 5 euros tous les mois sur via le compte PayPal donc de SOS. Ça fait 60 euros sur l'année. Donc, ce n'est pas négligeable parce qu'il n'y a pas de petits dons. Toute aide est la bienvenue. Donc, nous avons un compte Facebook. Donc, qui est SOS Réfugiés. Nous avons un compte YouTube sur lequel vous pouvez trouver une vidéo. On a fait une vidéo de clôture donc, de la campagne de cette année. Toujours en tapant SOS Réfugiés. Et nous avons un site internet aussi qui est en cours de construction. Je n'ai pas le lien, mais on le mettra sur notre compte Facebook qui est très actif.
Parfait. Sentez-vous à l'aise de nous les partager le moment venu et on va le partager au sein de notre communauté également. Donc,
je vous remercie.
Merci beaucoup Delphine de faire le tour et de nous présenter SOS Réfugiés ainsi que ses membres. C'est très apprécié et bravo pour vos initiatives. Anissé Carillé, je reviens à toi. Il y a d'autres initiatives qui ont été prises aussi, notamment celle de Ubumun Mubanu, qui est présidée par notre sœur Tabitha Guiza. Pourrais-tu en parler en très peu de minutes et aussi rappeler que la solution à cette problématique touchant les réfugiés rwandais est une solution politique. On est en train de travailler sur les symptômes d'un problème, mais qui est un problème qui est politique. Donc, je te donne la parole et on touchera à la fin de notre émission.
Je te remercie beaucoup, Achille. Je voudrais aussi remercier à Madame Delphine Danissa pour sa présentation et je voudrais féliciter l'organisation qu'elle représente maintenant, ainsi que SOS Réfugiés en général, pour ces actes-là qu'elle pose à l'endroit des réfugiés rwandais et qui sont vraiment nécessiteux, qui sont dans le besoin et qu'il faut aider quoi qu'il arrive. Il faut subvenir à leurs besoins, mais également il faut être à leur côté parce qu'ils sont dans des conditions de vie déplorables, si j'ose dire, surtout ceux qui sont dans des camps des réfugiés au Congo, mais aussi dans d'autres pays de la sous-région. Donc, j'adresse à Delphine et à ses collègues toutes mes félicitations. C'est des choses qu'il faut faire et qu'il faut faire sans te résumériser. Maintenant, tu me demandes s'il y a d'autres initiatives, et surtout de la part de notre organisation, ARC. Effectivement, il y a une initiative de Madame, une initiative de l'organisation, mais présidée par Madame Tabitha Guiza, qui va dans le même sens. Je ne veux pas en parler davantage, parce que Tabitha en parlait plus que moi, et je ne voudrais pas que ce soit comme une sorte de concurrence. Je voudrais plutôt que ce soit compris comme une complémentarité qu'il faut avoir entre tous ceux qui ont doté les initiatives. Donc, Tabitha pourra se mettre en relation avec Delphine et tous ceux qui sont dans ce circuit-là pour qu'on puisse œuvrer ensemble. Je pense que c'est très important. Dans tous les cas, Achille, tu as compris que je ne veux pas m'étendre sur nos activités en faveur des réfugiés, mais il y en a bien sûr, tout le monde le sait, mais je voudrais que justement ce moment, ce créneau que tu que nous a accordé soit réservé à SOS réfugiés. Mais en prônant ouvertement la complémentarité, non pas la concurrence. Il n'y a pas de concurrence quand il s'agit d'aider les nécessiteux. Il n'y a pas de concurrence quand il s'agit de venir en aide à tous ceux qui nous appellent au secours. Voilà. Et donc, je dis à Chile qu'il faudra, et moi, à Tabitha Lisa, tu le feras à ma place, et tu es le mieux placé d'ailleurs, pour qu'on se complète davantage. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais sinon, comme tu me le demandais, je pense qu'on touche à la fin de l'émission, et je voudrais encore une fois te remercier de m'avoir invité, et je voudrais encore féliciter Madame Delphine Danissa pour sa brillante présentation et pour toutes ces initiatives qu'elle et ses collègues ont eues en faveur des réfugiés. Et je remercie tous ceux qui s'adonnent sans réserve pour la cause des réfugiés. Et je voudrais appeler ceux qui ne l'ont pas encore fait, à attendre cet appel et à venir en aide, à mettre en place des initiatives, et s'il le faut, ou tout simplement entendre l'appel lancé par ceux qui ont déjà eu les initiatives pour que les réfugiés rwandais puissent avoir des conditions de vie dignes. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos parents. Mais également, il faudra maintenant des actes politiques et concrets, et là, c'est notre rôle, pour que le problème des réfugiés rwandais, ce phénomène-là, ait une issue positive. Et j'espère que ce sera le cas dans un proche avenir. Merci, mesdames et messieurs.
Merci beaucoup, Anissé. Delphine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Mais oui, écoute, je voulais te remercier pour le temps que tu nous as accordé pour qu'on puisse parler donc de cette problématique de réfugiés rwandais. Je voulais insister sur le fait que la plateforme SOS Réfugiés, comme je l'ai dit, donc il s'agit de plusieurs associations de la société civile rwandaise en Belgique, mais il y a aussi beaucoup de Rwandais à travers le monde qui nous soutiennent. Lors de notre dernière campagne, on a eu des dons qui venaient des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Afrique, des Rwandais qui vont là. Donc, c'est quelque chose qui commence à être bien connu, mais c'est sûr que les personnes, je vais dire, concernées, les Rwandais, les réfugiés rwandais qui sont dans le besoin, il y en a beaucoup. Et c'est juste le début, donc continuez à nous soutenir. Mais le soutien, il est en termes d'argent, il est en termes de participation. Donnez-nous vos idées, on en a vraiment besoin pour qu'on ait des feedbacks, qu'on puisse savoir comment mieux agir dans les jours à venir pour nous améliorer. Donc je remercie toutes les personnes en tout cas qui ont participé à la collecte de cette année et celle des années avant, et je remercie en avance ceux qui vont se mobiliser aussi pour les jours à venir. Autre chose aussi, le problème des réfugiés rwandais est un problème qui nous concerne tous. Donc, il faut vraiment qu'on se sente responsable et concerné, en parler à ses amis, en parler autour de soi, expliquer la situation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive de rencontrer des personnes qui pensent que le problème du Rwanda est résolu depuis très longtemps. Or, on vient de voir que ce n'est pas du tout le cas. Donc, parlez-en autour de vous. C'est tout ce que je vous demande. Merci et puis à la prochaine.
Parfait. Merci beaucoup, Delphine. Donc merci à vous deux d'avoir pris part à cette émission de façon très complète et très concrète. Merci aux personnes qui donnent ce qu'ils ont pour améliorer les conditions de vie de ces gens. On parle de la dignité, on parle du respect de la dignité humaine, on parle des gens qui vivent dans des conditions indignes, des conditions où ils font face à de l'insécurité, où ils font face à une privation des droits primordiaux, des droits de base, des enjeux alimentaires, des enjeux éducatifs. Des gens qui rencontrent des problèmes multiples, mais des problèmes qui sont directement rattachés au manque de respect de la dignité humaine. Et donc, quand on parle des réfugiés rwandais, il faudrait pas que les gens tombent dans le piège et qu'ils normalisent cette question parce que ce n'est pas normal. C'est un drame qui se vit sous silence. Et je répète, je réitère, c'est un échec du FPR. Et c'est pour ça qu'on dit que la solution ultime sera une solution politique. Donc, merci à tout le monde, merci à notre auditeur, auditrice. Merci beaucoup à notre soutien technique, aux gens qui nous aident sur le plan technique. Sans eux, on ne peut pas réaliser ces émissions. On les remercie beaucoup et on se dit à la prochaine. C'était Achille Kamana sur la radio ITM. Bonne journée.
J'étais petite, je gardais les troupeaux. Et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chants des oiseaux et le vent soufflait et la nature me souriait partout. Contempler l'univers, changer de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie. Louis, le coup pour tous ces vies. Voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies. C'est les masses, toi, c'est jamais plus vite.